Notre texte de ce jour, le deuxième texte, est dans Matthieu 15. En fait, j'ai lancé ça trop. Dans ce texte de Matthieu, on a quelque chose de révoltant. On a l'habitude d'un Jésus qui accueille tout le monde, sans distinction, sans condition. Et là, on a une femme qui est étrangère au pays d'Israël. Elle est, je dirais, étrangère aux coutumes religieuses d'Israël. Elle interpelle Jésus pour qu'il guérisse sa fille atteinte d'un esprit mauvais. D'autres traductions disent d'un démon. On pourrait penser aujourd'hui qu'il s'agissait peut-être d'une épilepsie qu'on ne connaissait pas à l'époque. Dans l'évangile de Matthieu, on dit qu'elle est cananéenne. Si on regarde dans l'évangile de Marc, on a un peu le même texte. Il est dit qu'elle est syro-phénicienne. En fait, Tyr et Sidon sont deux villes côtières du nord de la Phénicie, ce qu'on appelait la Phénicie, le grand nord-ouest de cette terre, et donc assez éloignée de la terre des Juifs. Et l'un comme l'autre, ces habitants de Tyr et de Sidon symbolisent les nations païennes, autrement dit des nations qui ne sont pas juives. L'histoire montre que, en plus, ces nations sont des ennemis héréditaires d'Israël. Il était donc interdit de leur parler, de leur adresser la parole. L'histoire, d'ailleurs, remonte au fait qu'il y a eu un schisme en Israël entre les royaumes du Nord et les royaumes du Sud. Le roi Achab, qui a épousé la fille du roi de Tyr et de Sidon, la fameuse Jézabel, si ça vous dit quelque chose, qui avait introduit en Israël ses propres dieux. Un dieu dont on entendra parler dans certains textes sous le nom de Baal, B-A-A-L. Alors, d'une part, cette femme est étrangère, et d'autre part, elle est une femme. Ça en rajoute. Parce que, en fait, en s'adressant à Jésus, elle transgresse deux interdits fondamentaux. Le fait de parler à un homme alors qu'elle est une femme, et le fait de s'adresser à un juif alors qu'elle est non-juive, et en plus, ennemie héréditaire du peuple. Il faut bien regarder où on se situe. Les évangiles ne sont pas une chronologie historique de l'ensemble des faits et des gestes de Jésus, mais ils racontent en fait comment les disciples ont compris sa présence et son message, notamment par rapport à ce qu'ils ont vécu avec lui. Ce sont des témoignages a posteriori, on le sait bien. Et si on remonte d'ailleurs plus haut dans l'évangile de Matthieu, dans le passage très connu sur le sermon sur la montagne, Jésus a justement réfléchi sur et redéfini la notion de prochain et la notion d'ennemi. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi héréditaire, après tout? Il est même allé très loin dans sa démonstration, puisqu'il exhortait d'aimer ses ennemis. Vous vous souvenez peut-être de ça. Au lieu de communément le haïr. Et juste avant la rencontre de Jésus avec cette femme cananéenne, au début du chapitre 15, la question fondamentale de ce qui est pur et de ce qui ne l'est pas est posée. Et la réponse de Jésus est très radicale, très nette. Ce qui rend une personne impure, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. Ce qui en sort vient du cœur. Ce qui rend une personne impure, ce sont les mauvaises pensées de son cœur qui la conduisent à un mensonge, à la malveillance, au sectarisme ou à l'exclusion. Et juste après ce fameux texte sur le sermon sur la montagne, il y a le récit de la rencontre de Jésus avec la femme cananéenne. Et cette femme représente l'impureté liée à sa condition et le fait d'être étrangère à cause de son origine. Vous avez remarqué, cette femme se jette aux pieds de Jésus en l'implorant de guérir sa fille. En fait, elle invoque Jésus en criant d'une voix rauque, gutturale, caverneuse. Comme le désigne, j'ai fait une petite trouvaille dans un commentaire à ce sujet, le mot grec employé par Matthieu, kraugazain, qui est un verbe très peu employé, qui n'apparaît que trois fois dans la Bible. La première, c'est justement pour signifier le cri de cette femme qui implore, donc une voix caverneuse. Le deuxième passage, c'est quand Jésus appelle Lazare des profondeurs de sa tombe, vous savez, pour la résurrection de Lazare, dans l'évangile de Jean. Et la troisième fois, au moment de la condamnation de Jésus, quand les grands prêtres et la foule crieront de le crucifier. En fait, cette voix ressemble plus à une voix animale, bestiale, plus qu'à une voix humaine. Le verbe évoque d'ailleurs les aboiements d'un chien. Vous allez voir que dans la suite du texte, ça a son importance, sinon on ne le comprend pas. Les Juifs traitaient de chiens les habitants de Canaan. Ainsi, on comprend mieux la suite du dialogue où la femme va implorer « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Là, elle fait appel à la miséricorde de Jésus, mais elle emploie aussi le mot « fils de David », c'est-à-dire un langage qui est une salutation propre au judaïsme. « Seigneur, fils de David, est-ce qu'elle pressent quelque chose en cet homme? Est-ce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va lui apporter un salut ?» On peut surtout y entendre l'expression d'une foi ardente, d'une mère désespérée, mais paradoxalement confiante. Malgré son désespoir, elle a confiance. Et elle fait appel à la compassion de Jésus qui arrive là comme un guérisseur. Alors, là, c'est là que tout devient choquant. Jésus ne répond pas un mot, dit le texte. Rien, pas une seule parole. Ce silence dérange. Que se passe-t-il dans la tête de Jésus? Tout se bouscule sans doute. Et on peut le deviner dans la suite du texte. Jésus ne dit rien, mais ce sont les disciples qui prennent le relais et qui demandent de renvoyer cette femme importune. C'est intéressant parce que les disciples n'invoquent pas le double statut de femme étrangère pour justifier ce rejet qu'ils demandent à Jésus de faire, mais de la renvoyer seulement parce qu'elle les poursuit de ses cris, et de ses cris très désagréables qui ressemblent à ceux d'un aboiement d'un chien. Et là, Jésus sort de son silence avec une parole incroyable. Il répond aux disciples, mais aussi à la femme, « Dieu m'a seulement envoyé pour les gens d'Israël qui sont comme des brebis perdues, sous-entendu et non pas à ces chiens de Canaan. » C'est une réponse très dure qui ferme toute la relation et qui nous choque. Nous n'avons pas l'habitude d'un Jésus qui exclut. Mais la femme insiste avec des mots d'une simplicité profonde. Elle dit simplement « Seigneur, aide-moi ». Elle supplie Jésus, cette fois à genoux. Très souvent, il faut regarder comment les gens se tiennent dans leur posture. Là, elle se met à genoux, elle s'accroupit, elle se met à plat ventre, comme un petit chien qui se met devant un maître. Peut-on imaginer? Elle se prosterne, elle se couche devant Jésus à la manière d'un chien qui rampe, mais aussi, d'autre part, elle baisse le ton. Elle ne crie plus comme une bête, mais elle implore à la manière d'un chien rampant. D'ailleurs, ce sont les disciples qui remarquent ce changement d'expression quand ils disent à Jésus « Elle nous poursuit de ses cris ». Le verbe employé en grec cette fois a changé. Ce n'est plus le même, c'est « krazaïn » qui désigne une plainte. Une plainte, un cri de la femme comme une femme qui accouche. C'est aussi ce mot qui sera employé au moment où Jésus criera sur la croix, à son agonie. Elle implore que sa fille puisse être délivrée du démon qui l'assaille, de ce mauvais esprit. Elle prie pour une nouvelle naissance de sa fille. Mais voilà, la mission de Jésus, fixée par Dieu, se borne à Israël. La Canaanienne se prosterne quand même, elle persévère, elle ne perd pas le courage de continuer à lui demander. Et Jésus lui répond quelque chose d'encore plus dur. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. On aimerait tant que la férocité de cette expression, de cette réponse, nous échappe. Mais si on regarde la situation en face, qu'on le veuille ou non, Jésus fait une réponse abominable à cette femme. Ce qui lui est dit est tout à fait injurieux. On peut y entendre une supériorité du peuple élu sur le peuple de Canaan. Jésus va-t-il s'abaisser à servir une femme de Canaan au détriment des enfants d'Israël? Pendant un instant, Jésus est en porte-à-faux avec son message et sa mission. Jésus est homme avant tout, n'oublions pas, jusqu'aux préjugés qu'il peut avoir, jusqu'à la culture qu'il a reçue, qui peut-être l'a formé d'une certaine manière. Mais alors, où est passé son amour? Où est passée sa faculté à comprendre, à deviner autrui, à aller vers l'autre? La question sensible est finalement, et vous, qui êtes-vous que je suis? Nous sommes toujours tiraillés de savoir dans quel camp on va mettre Jésus. Si c'est comme un Dieu, et dans ce cas-là, a priori, ne pas être en contradiction avec son message, ni avec sa toute-puissance, dans la représentation que nous en faisons, mais s'il est aussi un vrai homme, il est habité à la fois par ses qualités et ses défauts, il est habité par des traditions, par l'éducation qu'il a reçue de sa famille, de son pays, Il est habité par ses propres traditions religieuses et il est en train d'en prendre conscience. Il est en train de se dire, avec l'irruption de cette femme dans sa vie et dans son ministère, est-ce que je suis bien en accord avec ce qu'on attend de moi ? C'est un vrai bras de fer entre cette femme et lui, mais c'est un bras de fer non violent. Elle lui dit, et là c'est une réponse merveilleuse, « C'est vrai, maître, vrai maître, et pourtant même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Avec cette réponse, la femme montre à Jésus qu'elle a entendu l'insulte, qu'elle refuse d'y répondre par une autre insulte. Elle se place sur un autre registre. Et quand on pense au mot « miette », n'oubliez pas qu'après, il va y avoir d'autres textes qui vont nous expliquer qu'il va y avoir une prolifération. Vous savez, des poissons qui vont être pêchés, une prolifération des pains, etc. Où les miettes finissent par devenir abondance. Donc, ne prenons pas ce mot « miette » comme étant trop dévalorisant, finalement. Elle lui réitère simplement sa souffrance, sans exagérer. Oui, il est le maître. Et oui, elle ne vaut pas plus qu'un chien à ses yeux, avec tout ce qu'il y a de péjoratif contenu dans le terme. Mais elle continue d'implorer auprès de lui la guérison de sa fille. Il n'y a que cela qui compte pour elle, rien d'autre. Elle espère un geste, rien qu'un geste de Jésus. Et c'est là que le récit bascule. C'est là que Jésus se laisse toucher par les paroles de cette femme. Il dépasse à son tour ses propres limites. Peut-être qu'il surmonte lui-même sa propre peur de l'autre, l'étranger. Il maîtrise sa propre violence. Il a entendu qu'elle n'avait pas répondu par une autre injure. Sa violence est comme désarmée. Dans de nombreux commentaires, j'ai pu lire que Jésus s'était laissé convertir par cette femme. C'est cette femme qui a poussé Jésus dans ses retranchements et qui lui a fait prendre conscience de l'universalité de son ministère, au lieu de ne s'intéresser qu'aux Juifs. De le pousser à s'intéresser à tout le monde. C'est comme si c'était une femme étrangère qui évangélise Jésus. N'est-ce pas surprenant ? Mais ce que je vous propose de retenir aujourd'hui dans ce texte, c'est finalement le contraste qu'il y a eu entre les deux cris. Le cri rauque et le cri plaintif. Le passage de la violence à la non-violence. Finalement, grâce à la violence des propos initiaux, puis avec contraste, car la Bible aime bien montrer aussi les contrastes, vous le savez, pour mettre en valeur un message. Tout devient non-violence dans la réponse de cette femme. Et d'autres personnes que cette femme auraient pu tomber dans le piège d'une riposte, d'une surenchère, d'une réplique, d'une révolte, face à ces vexations de la part de cet homme qui pourtant met tout en œuvre pour désigner l'action transformatrice et créatrice de Dieu dans le monde, bien au-delà de Jésus lui-même. C'est Raphaël Picon qui a écrit cette petite citation que je viens de donner. Raphaël Picon, vous connaissez peut-être, un bon théologien. Et si c'était Jésus qui était au bénéfice de l'action transformatrice de Dieu, grâce à sa rencontre avec la Canaanienne, cette femme se met à sa portée, et cela provoque un revirement sans précédent. Jésus revient sur son refus et il accomplit le contraire de ce qu'il avait annoncé. Comme nous l'avons vu dans le texte de l'Exode, où, et la similitude est aussi géographique, puisque c'est aussi entre Sidon et Tyr que cela se situe, il y a effectivement la plainte de Moïse par rapport au veau d'or et à la punition que Dieu voulait infliger. C'est la même chose. Dieu pardonne à la fin. Et alors, finalement, sans se démonter, notre cananéenne exprime son besoin profond tout en se consentant à entendre, à être tout ce que Jésus disait d'elle. En fait, elle a triomphé pacifiquement de toutes les rigidités que Jésus lui avait imposées, y compris dans son incompréhension et dans son rejet. Nous pouvons l'entendre enfin dans cette parole de Jésus qui, en fait, laisse parler son cœur. Et là, Jésus répond très positivement, cette fois. « Ô femme, grande est ta foi, qu'il advienne selon ton désir. » Jésus ne parle plus en maître enseignant. Le maître ne parle plus à l'impératif. « Qu'il soit fait comme tu le désires, comme tu le veux. » Alors pour nous, finalement, nous sommes aussi invités à nous laisser habiter par cette histoire, de repérer comment elle résonne pour nous dans notre vie, dans notre relation à Dieu et aux autres. Doit-on répondre à l'injure par l'injure? Sans doute pas. Nous pouvons nous trouver tour à tour dans la situation de la cananéenne lorsque nous prions Dieu. Nous pensons que notre prière est bien formulée, mais pourtant c'est le silence qui nous répond. Nous pouvons nous sentir comme un étranger en situation délicate, quémandant quelques miettes de la grâce de Dieu, comme un chien se prosternant, et récolter une fin de non-recevoir. Parfois, c'est nous qui donnons cette fin de non-recevoir. Quand d'autres viennent vers nous, nous importuner, nous quémander notre amour, notre pain, notre présence, un peu trop souvent ou de manière trop insistante. Mais voilà, à chaque fois, c'est à la conversion du cœur que nous sommes appelés. Toujours nous convertir à l'autre, l'écouter, nous convertir au Dieu de Jésus-Christ et nous souvenir que sa grâce, elle est infinie et sans aucune frontière. Le texte d'aujourd'hui nous montre un chemin d'apprentissage. De quoi ? De la non-violence. Il nous montre à quel point les rencontres personnelles peuvent briser aussi les préjugés, élargir notre compréhension de la différence des autres. Nous avons sûrement besoin d'entendre quelque chose de ce genre pour rester debout dans notre monde actuel. Le langage de la non-violence, cela peut s'apprendre, tout le temps et partout. Alors peut-être recevrons-nous cette phrase pour nous-mêmes. « Oh, que ta foi est grande, il sera fait selon ce que tu désires. » Amen.